Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, durant la première partie de nos émissions, nous allons continuer notre série destinée à répondre aux questions de nos auditeurs sur la place du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Jean-Marc sera de retour parmi nous pour nous expliquer la relation qui existe entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ.
Jean-Marc, bonjour et merci d'être de retour parmi nous pour répondre à nos questions sur le Saint-Esprit.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous venons d'annoncer le sujet de notre discussion, à savoir quelle relation existe-t-il entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ.
Toute l'importance de cette question se révélera au fur et à mesure que notre discussion progressera. Tout d'abord, nous devons absolument baser nos réponses sur ce que nous enseigne la Bible. C'est pourquoi notre lectrice va nous lire quelques extraits de la parole de Dieu tirée de l'évangile de Jean. Ce sont des paroles de Jésus prononcées quelques heures avant de mourir sur la croix.
Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Quand le Défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Je remarque dans ces versets, le Saint-Esprit est aussi appelé le défenseur. Pourquoi? Que cela signifie-t-il?
En grec, ce mot dépeint la personne qui s'approche de celle ou de celui qui a besoin d'être soutenu. Ainsi, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est Dieu en personne. Dieu avec nous, Dieu pour nous consoler, Dieu qui demeure avec nous, quelles que soient les circonstances de notre vie.
Merci Jean-Marc, mais revenons à présent à la question qui nous intéresse. Quelle relation existe-t-il entre l'Esprit et Jésus?
Jésus a prononcé ces paroles la veille de sa crucifixion. Il était alors sur le point de mourir pour ensuite ressusciter et monter dans les lieux célestes. Jésus était réellement Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec son peuple. Toutefois, il avait un corps comme le nôtre. Comment pouvait-il alors prétendre demeurer avec l'ensemble de son peuple et ceci en même temps? C'est pourquoi il était dans les plans de Dieu d'envoyer son esprit à la place de Jésus. Car l'esprit peut être présent en tout lieu à la fois. L'esprit peut demeurer en chacun de nous en même temps. L'esprit est Dieu avec son peuple, invisible, oui, mais actif et vivant en nous.
Il existe donc une continuité entre Jésus et l'Esprit. Tous deux représentent une expression différente de la vérité. Dieu est avec nous.
Oui, et nous lisons aussi que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Dans l'évangile de Jean, nous apprenons en effet que Jésus est aussi venu pour promouvoir la vérité. Par exemple, en Jean chapitre 14, verset 6, « Le chemin, dit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. » Si donc Jésus est venu nous enseigner la vérité, nous pouvons affirmer que l'œuvre de l'Esprit de Dieu poursuit cette même perspective. L'un de ses rôles est d'apporter et d'enseigner la vérité au peuple de Dieu.
Je remarque à partir des versets cités au début de notre discussion, que c'est l'Esprit qui nous ouvre les yeux sur la puissance et la souveraineté de Jésus.
Oui, et ceci est une remarque fort importante. Il existe une continuité entre l'enseignement de l'Esprit et celui de Jésus. Et il ne se trouve entre eux aucune contradiction. Une harmonie de pensée unit Jésus et l'Esprit, et il ne peut en être autrement.
Et pourtant, il arrive que certaines personnes affirment avoir reçu un message de l'Esprit. Mais que penser si ce prétendu message est en contradiction avec l'enseignement de Jésus?
C'est là que réside toute l'importance de notre discussion. Si une personne apporte un enseignement clairement en désaccord avec celui de Jésus, nous devons en conclure que cette personne n'est pas, en cet instant précis, dirigée par l'Esprit de Dieu.
Oui, et ces propos sont importants, car il est possible de se tromper et de tromper les autres. Il peut nous arriver, en effet, de croire que nous sommes conduits par l'Esprit, alors que tout simplement, ce sont nos propres désirs qui nous dominent et qui s'expriment à travers nous. Nous devons alors confronter tout message venant, soi-disant, de l'Esprit, afin d'être certains qu'il ne se trouve pas en contradiction avec l'enseignement de Jésus.
Notons aussi que, selon les versets lus, l'un des rôles de l'Esprit est de glorifier Jésus. En effet, l'Esprit agit en nous afin de diriger nos regards vers le Seigneur. L'Esprit ne cherche aucunement la première place. Il désire que Jésus soit au centre de nos vies et que nous lui adressions notre louange et notre reconnaissance. Malheureusement, certains chrétiens ou certaines églises peuvent tellement parler de l'Esprit qu'ils en oublient Jésus. Or, le rôle de l'Esprit est de nous exhorter à glorifier Jésus. C'est pourquoi, là où Jésus semble absent des pensées, il est à se demander si l'Esprit est vraiment à l'œuvre dans les cœurs.
Merci Jean-Marc. Et une dernière question. Vous avez affirmé que le Saint-Esprit nous apporte la vérité. Mais comment le fait-il?
Nous pencherons davantage sur cette question la prochaine fois, lorsque nous aborderons le thème « Le Saint-Esprit et la Bible ». En attendant, nous pouvons affirmer que le Saint-Esprit ouvre notre cœur à la vérité. Il accomplit cela, entre autres, à travers nos lectures de la Bible, qui est la parole de Dieu.
Merci Jean-Marc. Nous attendons donc la prochaine émission d'Espérance aujourd'hui pour en apprendre davantage à ce sujet. L'inquiétude est une réaction courante générée par les difficultés de la vie. Mais qu'en dit Jésus à ce sujet? Nous allons le découvrir dans cette série de méditations bibliques que nous continuons aujourd'hui. Tout d'abord, Hélène va lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 25 à 27.
Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Ne serait-ce que de quelques instants.
Merci, Hélène. À présent, notre invité Robert va nous faire part de quelques réflexions sur ces versets.
Nous nous penchons donc sur le discours de Jésus au moment même où il aborde le thème universel de l'inquiétude. Jésus, dès cet instant, cherche à diriger nos pensées sur des évidences qui devraient apaiser nos esprits troublés. Aussi, aujourd'hui, je voudrais considérer un des éléments de sa longue déclaration. Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? En nous posant cette question, Jésus nous fait remarquer que nous ne gagnons rien à nous inquiéter. L'inquiétude n'est pas du tout profitable. Elle est inutile et vaine. Le fait de s'inquiéter rend malheureux, triste et angoissé. De plus, à force d'inquiétude, nous risquons de voir apparaître des problèmes de santé.
Mais Robert, si le fait de s'inquiéter ne produit en nous rien de positif, que faire devant les problèmes de la vie? Comment y faire face? Devons-nous rester passifs et attendre sans rien faire?
Non, pas du tout. Nous devons bien définir toute la portée de l'inquiétude. Si nous sommes, par exemple, démunis et traversons une situation difficile, il est à la fois juste et conseillé de bien réfléchir à la manière de résoudre ce problème. Nous pouvons rechercher quelles sont les décisions sages à prendre, ou trouver conseil auprès d'amis, ou encore considérer ou obtenir l'aide nécessaire pour mieux s'en sortir. Dans la mesure où nous pouvons agir, nous devons trouver des solutions.
Mais alors comment définir l'inquiétude dans tout cela?
L'inquiétude est le fait de ruminer sans cesse tous les aspects négatifs d'une situation. L'inquiétude est la tendance à imaginer le pire des scénarios. C'est le fait de toujours exagérer l'ampleur des problèmes et de rester fixé sur les événements que nous ne maîtrisons pas, qui nous échappent au lieu d'agir et d'améliorer ce que nous pouvons changer.
Merci Robert. Il est effectivement important de comprendre ce qu'est l'inquiétude. Mais Robert, je pense que nous savons tous au fond de nous que l'inquiétude est inutile, qu'elle n'apporte rien de positif. Pourquoi Jésus nous le rappelle-t-il alors?
Parce que nous tombons tous si facilement dans l'inquiétude qu'il est important de nous remémorer sans cesse la façon dont nous devons apaiser nos cœurs. De plus, le discours de Jésus vise à accroître notre foi en l'Éternel, en nous rappelant que l'inquiétude ne sert à rien, qu'elle nous fatigue tout simplement et nous rend nerveux. Jésus nous interpelle. Il veut nous amener à nous poser la question suivante. Si l'inquiétude mine, rend la vie plus pénible encore, que faire alors pour y remédier? Jésus nous dirige alors vers le bon choix, la bonne résolution à prendre. Nous devons faire confiance en l'Éternel. Si nous nous inquiétons parce que nous sommes victimes d'événements cruels qui nous échappent, que notre présent est terrible, notre avenir incertain, tournons-nous alors vers l'Éternel. Cherchons auprès de lui un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Il est puissant pour transformer les vies et changer les événements qui nous accablent. Toutefois, comme l'affirme l'apôtre Paul, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Si aujourd'hui nous ne comprenons pas le sens de nos épreuves, un jour nous en comprendrons la raison. En attendant, souvenons-nous que les épreuves comme les bénédictions concourent chacune pour leur part à affermir et accroître notre foi.
Nous remercions Robert pour sa participation aujourd'hui. Nous prions pour que ses propos fortifient votre foi, apaisent vos cœurs inquiets et vous aident à aborder les difficultés de la vie plus sereinement.
Nous continuerons nos deux séries la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.